Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le président n'a pas fait dans le détail. Il assume. Le dossier de l'immigration doit devenir une priorité de l'acte 2 du quinquennat. Un sujet sur lequel il a considérablement musclé son discours. Hier, il était devant les parlementaires de la majorité. Il a surpris en expliquant, par exemple, qu'il fallait se méfier des bons sentiments et s'emparer d'une réalité qui touche en priorité l'électorat populaire et surtout ne pas faire de La République En Marche un parti de bourgeois. Ce sont ses mots. Une conversion pour faire face à son adversaire désormais désigné, Marine Le Pen. Cette stratégie risque de braquer une partie de marcheurs issus des rangs de la gauche, alors qu'un débat est prévu à l'Assemblée fin septembre, justement sur le sujet de l'immigration. La majorité peut-elle de nouveau se déchirer sur l'immigration? Jusqu'où veut aller le président sur ce sujet? Qu'attendent précisément les Français? Macron, l'immigration et les bourgeois, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste et directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Cécile Cornudet, vous êtes éditorialiste politique aux Échos. Je cite votre édito sur le sujet immigration. Macron prépare les siens à un virage. Virginie Guiraudon, vous êtes directrice de recherche au CNRS, au Centre d'études européennes de Sciences Po. Vous êtes auteur de Les politiques d'immigration en Europe. Vous travaillez, je le précise, sur la fabrique, la mise en œuvre des politiques européennes d'immigration, d'asile et de contrôle aux frontières. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département opinion de l'Institut de sondage IFOP. Votre ouvrage « L'archipel français » est publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre.
Bonsoir.
Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Ça ressemble quand même à un virage. En tout cas, il leur a fait la leçon aux parlementaires de la majorité hier soir, Emmanuel Macron.
Oui, c'est clair. C'est que ce n'était pas un sujet, si vous voulez, qui était au cœur de sa campagne électorale. Et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est la première fois qu'il met sur la table... Il expose un sujet qu'il n'avait pas prévu. Pas prévu comme ça. Ce qui est clair, c'est que est passé par là, évidemment, l'épisode des Gilets jaunes. Et surtout, il a besoin de conforter son assise électorale à droite.
D'accord. Mais vous donc, dites qu'il a fait du chemin. C'est-à-dire que pendant la campagne électorale, pendant la première partie de son quinquennat,
on ne peut pas dire que c'était une thématique très au cœur de son discours. Il avait même eu des propos qui laissaient entendre pendant la campagne électorale qu'il était plutôt sur la ligne de Mme Merkel 2015, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut être, accueillant, il faut accepter il faut être humaniste, humanitaire. Et il a commencé à changer à la fin de sa campagne, d'ailleurs, en voyant qu'il fallait qu'il ait un autre accent. Alors là, je dirais qu'il y a un élément objectif et un élément subjectif chez lui. L'élément objectif, c'est que l'immigration est au cœur du débat politique depuis très longtemps en France. Et qui dit immigration, dit intégration aussi, parce que c'est là que les problèmes réels se posent. Statistiquement, il faut tout à fait le dire, l'immigration augmente, qu'elle soit légale ou illégale, elle augmente, on en reparlera. Et puis, il y a un élément subjectif, encore une fois, c'est l'élément purement électoral. L'élection municipale arrive, les élections municipales, les régionales, la présidentielle. Et j'entends dire qu'il essaye de draguer l'électorat de Mme Le Pen. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'il essaye de conforter et d'orloter l'électorat qui vient d'une droite classique, qui demande de la liberté en économie et de la sécurité dans la vie de tous les jours. Et c'est cet électorat-là qui veut absolument, si vous me permettez l'expression, ferrer. Il veut le ferrer pour être sûr de pouvoir le garder, alors qu'à gauche, eh bien, Emmanuel Macron a quand même perdu pas mal de plumes, il faut quand même le dire. C'est l'électorat qui l'a élu au premier tour de l'élection présidentielle, mais qui depuis s'est un peu détourné.
Il y a l'habileté ou pas, on verra d'ailleurs au prochain municipal électoraliste, de l'homme politique Macron. Est-ce qu'il y a derrière une conversion, comme il l'avait dit sur l'écologie, il avait dit « j'ai changé », est-ce que sur ce sujet-là, il a ou découvert une réalité, ou écouter des gens qui sont venus lui murmurer à l'oreille en lui disant qu'il passait à côté d'une réalité. Est-ce qu'il a regardé les sondages? On va en parler dans un instant. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est juste? Parce que si c'est le cas, ça va être compliqué de le défendre sur la durée. Est-ce que c'est juste une posture?
Non, je pense que c'est profond et que ça fait
plusieurs mois maintenant qu'il essayait de s'emparer du sujet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment du grand débat, il avait dit qu'il faudrait que ce soit un thème en tant que tel. Et finalement, comme ça avait pas mal grincé dans ses rangs, il avait reculé là-dessus. Je pense qu'effectivement, c'est à la fin de la campagne. En fait, ce n'est pas des sujets qu'il connaissait. Autant
ça
ne
l'intéressait pas.
Oui, c'est ça. Donc, je pense que pendant très longtemps... alors, d'abord, il y a eu une posture de différenciation avec Manuel Valls. Ça, c'était en 2015, quand effectivement, il était contre la déchéance de nationalité, tout ça. Et dans la campagne, beaucoup de gens disaient « il faut quand même, tu vas être président, il faut quand même investir le régalien ». Là, il a commencé à avoir un discours très équilibré, humanisme et fermeté, déjà, ça commençait là. Et puis, en fait, c'est surtout à l'épreuve du pouvoir... dans la relation avec Gérard Collomb, qui lui-même voulait durcir tout le processus du droit d'asile. Donc, c'est un long processus, mais il n'avait jamais vraiment osé le prendre lui-même comme un sujet politique, parce qu'en fait, sa majorité est complètement opposée à ça. Donc, il faut l'affronter, sa majorité. Et s'il le fait maintenant, c'est effectivement, je pense, parce qu'il est dans une logique présidentielle. Il a basculé, on est à la moitié du quinquennat. Là, il pense à sa réélection, clairement. Il fait de Marine Le Pen son adversaire principal. Si vous vous souvenez du débat d'entre deux tours, Marine Le Pen avait été suffisamment mauvaise pour qu'on ne retienne que ça. Mais le seul moment où il a été un peu en difficulté, c'est sur ces questions régaliennes et d'immigration. Et ça, il le sait très bien. Il sait aussi que Lionel Jospin avait des bons résultats économiques, a perdu sur ces questions. Et puis moi, je pense qu'il y a quelque chose de plus important, c'est qu'il veut avoir Marine Le Pen comme adversaire, mais il sait que du coup... Il y a une difficulté pour lui, c'est qu'elle, elle veut incarner le candidat du peuple et le renvoyant à candidat des élites. Et ça, ce clivage, cette lutte de classe calquée à la politique, c'est très dangereux parce que jamais un président n'a été élu sans le peuple. Ça, c'est Gérald Darmanin qui le dit. Et là, donc, il passe dans une séquence présidentielle où il sait qu'il faut qu'il parle aux classes populaires. Et c'est cet angle-là, vous le disiez, qu'il a choisi pour défendre l'immigration hier soir devant la majorité, c'est de dire il faut qu'on parle aux classes populaires.
On va y revenir dans le détail avec notamment Jérôme Fourquet. C'est curieux parce que depuis le début du quinquennat, on parlait beaucoup de pouvoir d'achat, on a parlé récemment beaucoup d'écologie et le sujet de l'immigration on avait l'impression, et c'est peut-être une erreur, était passé un peu au second plan politiquement. Comment est-ce que vous l'analysez ça ?
Alors tout à fait, pendant la campagne électorale, c'est pas un sujet, mais très vite quand Macron devient président, lui, il va faire des discours à l'international ou dans les instances européennes sur l'humanisme, et c'est à Gérard Collomb, puis au ministre de l'Intérieur, de faire la fermeté. Donc il y a une division entre le président et le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur. Donc on va dire, voilà, good cop, bad cop. Hein, donc lui, il est ouvert à l'international. Ouais. Et là, c'est vrai que c'est la... Depuis quelques mois, c'est lui qui va mettre les mains dans le cambouis pour faire de l'immigration un sujet. Alors, il faut rappeler qu'après le grand débat, justement, il a utilisé les mêmes mots que Nicolas Sarkozy en 2007, 12 ans plus tard. Il a parlé de quotas, il a parlé d'immigration subie, il a repris vraiment les mêmes mots. Donc, c'est forcément pour parler à l'électorat de droite. Pas d'extrême droite forcément, mais vraiment c'était des marqueurs. Et on a vu qu'effectivement aux élections européennes, bon, clairement il y a une partie d'électorat de droite traditionnelle qui a voté pour lui. Donc là, il va plutôt dans l'arène électorale. Mais par contre, sur les actes, sa politique, non pas ce qu'il dit, mais ce qu'il fait, ce que fait ce gouvernement, n'a jamais eu d'ambiguïté. Hein. Nous n'avons pas accueilli de bateaux en Méditerranée, nous avons nos frontières
fermées.
C'était
la ligne de la fermeté dans les actes.
La fermeté, on a fermé la jungle de Calais, on a fermé nos frontières avec l'Italie. Donc là, pour le coup, sur les actes, il n'y a que de la fermeté,
vous
pas de manisme.
Vous iriez jusqu'à dire qu'il avait du mal à assumer ce rôle-là, publiquement, lui, de le porter. Vous disiez bad cop, il n'avait pas envie d'être le bad cop, c'est-à-dire qu'il conservait les atours d'un discours équilibré, on va le dire comme ça, ou humaniste.
Ça dépend à qui on en parle. Est-ce qu'on parle à ses collègues européens pour dire « je ne suis pas Salvini ».
C'est ça.
Donc là, on a envie d'être gentil, mais sur le terrain et vraiment intérieur, là, pour le coup, je pense qu'il est plus dans un discours qui s'adresse à l'électorat français.
Jérôme Fourquet, ils attendent quoi, les Français, sur ce sujet ?
Alors, il n'y a pas. Alors, ce à quoi on assiste, le changement de pied du président, est sans doute à mettre au compte d'un changement interne, propre au président de la République, et pas une évolution de l'opinion. Parce que depuis une quinzaine d'années, les sondages sont relativement constants sur la question, quand on pose les sujets de manière parfois différente. Mais en gros, l'item qui consiste à dire est-ce que vous considérez qu'il y a trop d'étrangers ou trop d'immigrés en France, ça fait une quinzaine d'années qu'on a entre 60 et 65% de Français qui adhèrent à cette opinion.
On a un sondage là de Ipsos, vos confrères d'Ipsos, 63% des Français estiment qu'il y a trop d'étrangers en France, 64% assurent ne plus se sentir chez eux comme avant.
On est aux deux tiers, et vous voyez que là-dessus, on est assez stable. Donc, ce n'est pas une évolution subite de l'opinion qui aurait fait changer le président de la République. C'est sans doute confronté à l'exercice du pouvoir et du poste d'observation qui est le sien, qu'il considère que ce sujet est majeur, alors que de par sa formation, de par son activité professionnelle par le passé, ces sujets n'étaient pas majeurs pour lui. Donc là, lui, il bouge sur la question. Donc les Français, et pas uniquement l'électorat du Front National et de la droite, parce que sinon on n'arrive pas à 64%, très majoritairement disent qu'il faut maîtriser les flux migratoires. Et donc, quand Christophe Castaner, avant l'été, ressort la question des quotas, en revenant sur des propositions que Nicolas Sarkozy avait faites, on s'interroge. Il y a un élément d'explication, c'est la période calendaire, c'est-à-dire que c'est au moment des beaux mois d'été que les flux en traversant la Méditerranée sont les plus importants. Il dit on va de nouveau avoir les images des bateaux d'ONG qui vont errer en Méditerranée, et nous, il faut qu'on se positionne, et donc il faut qu'on donne le sentiment aux Français que nous prenons à bras-le-corps ce sujet.
Parce qu'il y avait une image de laxisme d'une certaine manière.
Comme Yves Tréhard l'a dit tout à l'heure, et pendant la campagne, pré-campagne présidentielle, Emmanuel Macron dit gloire à Angela Merkel qui, dans l'affaire des migrants, la crise des migrants en 2015, a sauvé l'honneur de l'Europe. Donc il est sur une position qui est très de gauche, très humaniste et très accueillante et bienveillante sur la question migratoire. Et on voit que là, il y a un vrai changement de pied. Alors, comme souvent, les Français donc disent des choses dans les sondages et attendent des actes. Pour l'instant, là, on a des propos qui sont très fermes de la part du président. Et à l'heure où on se parle, on apprend qu'il y a une opération de démantèlement du mini-jeun à grande fin qui a eu lieu. Autre élément qu'il faut prendre en compte, je pense qu'Emmanuel Macron a regardé les résultats des élections européennes et il voit que plus que jamais, son électorat est concentré dans le cœur des grandes métropoles et d'abord et avant tout un électorat de CSP+, donc cadre, profession intellectuelle, retraité aisé, et qu'il y a une vraie césure qui s'est constituée avec les catégories populaires. Et donc, si on veut avoir un minimum de points d'appui dans ces milieux classe moyenne ou classe populaire, aux élections municipales, mais aussi à la présidentielle, il va falloir parler de ce type de sujet.
Juste pour revenir sur une phrase qu'il a dite, il pense que la société est plus dure que les politiques sur ces questions. Il a raison ?
Oui, je pense. Oui. Je pense quand on voit sur la politique alors migratoire, mais là, sur un autre sujet, par exemple, sur la sévérité des peines prononcées par la justice, et même pas dans les affaires, d'affaires politiques, on a des scores qui sont massifs. Plus de 80% de Français disent que les peines ne sont pas assez sévères, ne sont pas assez dures. Et je pense que Emmanuel Macron, qui n'a pas un long parcours d'homme politique local, il s'est frotté quelque part au peuple français depuis 2 ans, depuis qu'il est président, et il prend conscience quelque part des attentes profondes d'une partie de la population qu'il avait peut-être sous-estimée. Là où je rejoins Cécile Cornudet, c'est que quelqu'un comme Gérard Collomb a été pour beaucoup dans la conversion qui s'est opérée chez Emmanuel Macron.
Alors, ça ressemble effectivement à une conversion, vous avez raison, Emmanuel Macron, devant les parlementaires de sa majorité hier, a développé un discours musclé sur l'immigration. Il a mis en garde les marcheurs et les a invités à ne pas devenir un parti bourgeois. Son objectif s'adresse aux premiers concernés par ces problématiques, les classes populaires, Magali Lacrosse, Laszlo Gélabert et David Lemarchand.
Ils avaient été invités à venir nombreux hier. Petite réception de rentrée avec les parlementaires de la majorité au ministère chargé des relations avec le Parlement. Emmanuel Macron entretenait le doute sur son agenda et le voilà qui arrive dans les jardins du ministère. Le président vole accessoirement la vedette à son premier ministre et donne le ton de la rentrée avec des sujets régaliens et surtout l'immigration.
La question est de savoir si nous voulons être un parti bourgeois ou pas. Les bourgeois n'ont pas de problème avec cela. Ils ne la croisent pas. Les classes populaires vivent avec. La gauche n'a pas voulu regarder ce problème pendant des décennies. Les classes populaires ont donc migré vers l'extrême droite. En prétendant être humaniste, on est parfois trop laxiste.
Reprendre la main sur le sujet sensible de la politique migratoire. Aux parlementaires et aux ministres de relayer la parole du président.
Le passer sous silence et ne pas le regarder en face, c'est prendre le risque que d'autres s'en emparent, mais pas avec les mêmes termes, pas avec les mêmes objectifs.
Nous recevons mal les personnes qui sont réellement en situation de danger dans leur pays. Et par contre, nous ne sommes probablement pas assez fermes avec l'immigration économique. Et donc le président a rappelé la règle. Il souhaite qu'on soit meilleur avec ceux qui fuient leur pays pour de bonnes raisons et plus ferme.
Visiblement,
pas si facile à assumer. Mais le président n'en démord pas. La semaine dernière déjà, la porte-parole du gouvernement annonçait les objectifs.
D'accueillir avec humanité les personnes qui relèvent du droit d'asile sur notre sol, de pouvoir apporter des réponses rapides, notamment lorsque ces réponses sont négatives, et aussi d'agir avec fermeté pour que les personnes qui ne relèvent pas du droit d'asile sur notre territoire puissent être raccompagnées dans des délais qui sont des délais le plus brefs possible.
L'offensive d'Emmanuel Macron sur l'immigration ne date pas d'hier. Régulièrement, le président cherche à ramener le sujet au centre de la vie politique. Début 2018, dans un centre d'accueil de migrants dans le Pas-de-Calais.
Vous avez fait quelle route ?
Le président vient défendre, avec Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, le projet de réforme du droit d'asile, critiqué par une partie de sa majorité. En pleine crise des Gilets jaunes, en décembre, Emmanuel Macron s'adresse aux Français. Il souhaite faire de l'immigration un des piliers du débat national. Un mois plus tard, dans sa lettre aux Français, il leur demande ce qu'ils pensent des quotas.
En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ?
Et en avril, pour sa première conférence de presse du quinquennat, une nouvelle fois le sujet revient, le président souhaite un débat annuel sur la question. À l'Assemblée nationale cet après-midi, les parlementaires de l'opposition, de gauche, dénoncent un durcissement idéologique.
Ce n'est pas en courant derrière l'extrême droite qu'on fait obstacle à l'extrême droite.
Si M. Macron a décidé de fédérer les Français sur le racisme pour essayer de contourner les problèmes et les mobilisations sociales et détourner leur attention, c'est un jeu très dangereux.
D'autres, au contraire, n'y voient qu'une opération de communication.
Toute sa politique a permis aujourd'hui cette explosion de l'immigration. Record de titres de séjour l'année dernière, record de demandeurs d'asile. Alors aujourd'hui, il dresse un diagnostic qui est pertinent, dans lequel je me retrouve. Mais ses actes ont démontré très exactement le contraire.
Mais on a eu un débat sur l'immigration il y a quelques mois, me semble-t-il, à l'Assemblée nationale. Toutes les propositions que nous avons mises sur la table pour empêcher précisément ce détournement, notamment du droit d'asile, mais pas seulement, ont été blackboulés par les députés En Marche. Donc, j'y crois pas.
Au même moment ce matin, une nouvelle évacuation du campement de Grande-Synthe dans le Nord a commencé pour un millier de migrants. Quand l'actualité alimente les prochains débats politiques.
C'est un hasard du calendrier ou pas, Cécile Cornudet ?
Je pense pas. Et il a besoin de montrer très vite qu'on va rentrer. Pareil, il y a aujourd'hui un plan drogue dont on parle depuis des mois et des mois dans les quartiers qui est annoncé. Je pense que les deux choses, c'était montrer qu'il n'y a pas que des mots, on est en train d'embrayer sur du vrai.
Cette question, les bourgeois votent-ils vraiment Macron ?
Alors, quand on regarde les sondages ou les résultats par commune, on s'aperçoit qu'effectivement la population la plus aisée avait déjà quand même pas mal soutenu Emmanuel Macron à la présidentielle, mais que ce phénomène s'est renforcé avec l'apport de toute une partie de l'électorat de droite traditionnel plutôt aisé, qui a basculé aux européennes sur Emmanuel Macron. On va donner quelques chiffres. À Boulogne-Billancourt ou à Neuilly, ou dans le 16e arrondissement de Paris, la liste En Marche fait entre 40 et 45% des voix aux dernières élections européennes. Donc Emmanuel Macron, je pense qu'il est aussi conscient du fait que la structure de la sociologie de son électorat est très déséquilibrée et qu'il est très en difficulté dans les catégories les plus modestes, qui aujourd'hui, quand elles votent quand même assez massivement pour le Rassemblement national, notamment sur ces questions-là.
Alors, est-ce que cette conversion est liée à une réalité ? Alors, il y a souvent une querelle de chiffres lorsqu'on parle des sujets d'immigration. Quand on lit Le Monde de cet après-midi sur les demandes d'asile, 100 000 en 2017, 120 000 en 2018, sûrement au-delà, 130 000 en 2019. Voilà un sujet qui, visiblement, a suscité cette conversion d'Emmanuel Macron.
Je pense que les chiffres n'ont rien à voir avec la conversion d'Emmanuel Macron. Je vais bien le répéter, mais bon, il décide à ce moment-là que c'est le bon moment, après les élections européennes, de mettre l'accent sur cette question, de dire « nous, les bourgeois des villes, nous devons parler aux classes populaires », ce qui est quand même des mots très bizarres, enfin, presque marxistes. Mais effectivement, il a un électorat plutôt dans les villes qui connaît très bien les migrants, parce qu'on a plus de chances de rencontrer quelqu'un qui vient d'arriver en France si on habite à Paris que dans un petit village de Normandie. Donc c'est vraiment des raisons électorales. Sur les chiffres, il y a forcément un petit peu de fluctuation. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on n'a jamais beaucoup accueillis par rapport à notre population et notre PNB, parce que ça ne sert à rien de donner des chiffres bruts, mais si on les rapporte à la population et même à notre PNB. Par contre, c'est vrai qu'il y a eu un peu plus, un peu moins. Ce qu'il faut voir surtout, c'est ce qui se passe à la fin, c'est-à-dire qu'on reste en Europe un des pays où il y a le taux de reconnaissance le plus bas par l'Office français, donc l'OFPRA, hein, qui décide qui peut être vraiment devenir réfugié, extrêmement bas. Donc on reste à une personne sur cinq, en fait, reçoit l'asile.
Alors, avec une difficulté majeure, c'est qu'au terme de cette procédure, les personnes qui sont déboutées, les études ont montré que 90% des obligations de quitter le territoire n'étaient pas appliquées.
Comme donc, dans tous les autres pays, mais si vous voulez dire qu'on est laxiste, non, alors, on a un taux de reconnaissance extrêmement
bas. Pour le coup, il
n'y
a pas
bas.
De lecture. Enfin, je veux dire, là, on donne des chiffres et là, ce qui explique Jérôme Fourquet est une réalité. Et d'ailleurs, ça fait partie des sujets qui sont très régulièrement abordés par les ministres de l'Intérieur, qui disent on a un problème de dévoiement du droit d'asile et la façon dont les choses se passent une fois qu'ils sont déboutés.
Alors, le droit d'asile, c'est quelque chose, mais après, il y a une procédure qui dit est-ce que vous êtes éligible ou pas. Mais une fois que le jugement est tombé, on a un vrai problème, c'est de faire exécuter entre guillemets la décision, et donc les gens restent. Plus, si la France n'a pas accueilli très massivement, on s'en souvient, au moment de la grande vague de 2015-2016, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans l'espace Schengen, on a beaucoup de déboutés du droit d'asile en Allemagne, en Suède, qui avaient accueilli beaucoup, qui aujourd'hui sont en train d'arriver en France. Alors, ce n'est pas des centaines de milliers, mais avec une population qui était déjà présente, tout ça renforce les effectifs. On a un problème particulier avec ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, hein, qui sont à la charge, pour le coup, des départements. Et ça, un ministre de l'Intérieur ou un Premier ministre ou un Président de la République, après la fameuse séquence Gilets jaunes où il faut se réconcilier avec les élus locaux, tous les patrons de départements, de gauche et de droite, disent nos structures d'accueil pour les mineurs non accompagnés qui étaient taillées pour des mineurs non accompagnés de nationalité française sont complètement saturées. Donc on a c'est des problèmes réels
et
sur le terrain.
On n'avait pas fait une loi asile-immigration. C'était pas censé régler ce genre de situation.
On a fait une loi asile-immigration. On en a fait plusieurs d'ailleurs, des lois sur l'asile pour réduire les délais de justement d'examen des dossiers. Mmh. Ça avait déjà été le cas sous Manuel Valls. Ça a été le cas évidemment
à chaque fois,
avec Gérard Collomb. C'est comme sur la sécurité. Si vous voulez, on a empilé l'arsenal législatif. Ce qui est d'ailleurs sur la sécurité, pas condamnable, parce que je vous rappelle qu'Israël, c'est ce qu'elle fait, il s'adapte à chaque fois. Sur l'immigration, bon, l'immigration, le problème, c'est que c'est... Moi, je crois qu'Emmanuel Macron, il y a effectivement un côté, évidemment, électoraliste, mais il veut montrer à tout le monde que lui, il va le faire, contrairement aux autres. Parce que l'immigration est au cœur du débat depuis 40 ans en France. Je vous rappelle les discours de Charles Pasqua quand on parlait des charters. Je vous rappelle les débats au tournant des années 2000 avec Chirac-Le Pen, Jospin, Sarkozy. Et finalement, on s'aperçoit que la tension n'est jamais retombée. Donc Emmanuel Macron, qui prétend représenter, eh bien, moi, je fais, il veut s'attaquer au sujet.
Mais comment ?
Alors, il y a plusieurs pistes qui sont en œuvre et qui sont, je dirais, hautement sensibles.
Ouais.
Vous avez d'abord la piste de dire le droit d'asile, il faut en limiter soit les conditions d'accès, soit... Enfin, il y a des critères à respecter, il faut revoir ces critères pour qu'ils soient plus étroits et que le droit d'asile soit vraiment consacré aux ressortissants de pays qui viennent, de pays en guerre, de pays qui connaissent une misère terrible, et non pas, comme le disent les chiffres, de pays réputés sûrs, même si on n'aimerait peut-être pas y habiter, comme l'Albanie, la Géorgie et d'autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il veut s'attaquer, alors là, c'est là où ça va aller, ça va être très chaud, vis-à-vis de sa majorité notamment, c'est l'histoire des prestations sociales et des aides qui sont
alors
fournies.
Alors ça, on va en parler, l'AME notamment.
L'AME.
Avec l'idée, je veux bien qu'on garde juste ce sujet-là, parce que vous avez raison, il faut qu'on prenne le temps d'expliquer
C'est très passionnel.
Comme sujet.
Alors ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas faire un débat sur l'immigration, et on va vite voir la limite de la chose, si on ne s'intéresse pas à l'intégration. Parce que le sentiment d'une partie de la population française très négatif vis-à-vis de l'immigration, c'est pas tant les gens qui arrivent, si, peut-être, surtout quand ils s'entassent dans des camps comme à la Porte de la Chapelle à Paris ou à Grande-Synthe, mais c'est beaucoup tous les ratés qu'on accumule depuis des années et des années et qui affectent l'école, le logement, le milieu hospitalier, enfin tout ça, et les services publics en général, si vous voulez, qui ne sont pas adaptés ou qui ne se sont pas adaptés à l'aide qui est fournie aux personnes qui viennent d'étrangères et ou d'origine étrangère. Et ça, les Français, je pense, le vivent très mal. Ouais. Il l'a compris, ça. Je crois que Gérard Collomb, qui était intraitable dans sa ville de Lyon quand il était maire de Lyon avant d'être ministre, a été d'un, je dirais, je le sais même, un mentor là-dessus pour Emmanuel Macron. Il lui a répété souvent, il lui a répété pendant la campagne électorale, Macron a dit « c'est sur les sujets économiques que j'arriverai à me faire élire et c'est sur les sujets économiques que je mette l'accent, contrairement à Hollande qui n'avait pas réussi avec le chômage ». Mais maintenant, il se rend compte qu'il ne peut pas continuer s'il laisse ça en plan. Surtout qu'il y a eu des épisodes qui ont été des épisodes assez chauds, tout comme d'ailleurs sur la drogue. La drogue, c'est pareil, il n'en parlait pas avant. Donc,
oui, il y a un plan
nouveau
aujourd'hui, annoncé par le ministre de l'Intérieur.
Donc voilà, et puis il y a toute une... Mais ça, on peut y revenir. Je pense qu'il y a une spécificité française sur l'immigration qui est l'histoire de France. On est un pays... qui a été colonisateur et avec lesquels, il faut le dire, on a passé ces pays, une fois que la décolonisation est arrivée, des accords bilatéraux qui facilitent, si vous voulez, les déplacements, qui facilitent l'arrivée de ces populations en France, contrairement à beaucoup d'autres pays qui ne connaissent absolument pas ça en Europe. Et aujourd'hui, eh bien, ça pose des problèmes.
Vous vouliez dire un mot
Oui, l'Europe est un continent d'immigration, il n'y a pas que la France.
Oui,
ça,
bien sûr. Mais nous, on a un passé colonial plus important.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de reprendre la France dans un contexte plus large. Il y a toujours un décalage entre les discours politiques, qui vont forcément être plutôt des discours de fermeture. Je contrôle la situation,
et la réalité.
Voilà, et la réalité. Ouais. Alors, même si on prend le cas de figure dont on parlait, c'est-à-dire on va restreindre le droit d'asile, ça veut dire quoi? On va donc avoir plus de déboutés de l'asile, ouais. Donc on ne va pas régler le problème de ce point de vue-là. Et donc, c'est justement ce décalage entre ce qui est promis ou dit et la réalité qui
alimente... C'est ça
alimente,
qui heurte les
Français. Ah oui, sûr.
Mais ouais. Qui alimente dans tous les pays, justement, des discours populistes, enfin, appelez-les comme vous voulez, des partis, parce qu'on n'arrive pas à ajuster ce discours en disant « je contrôle mes frontières », et puis la réalité.
C'est important ce que vous dites, parce que ça fait penser à ce qu'a dit Édouard Philippe, qui n'est pas très allant sur ces sujets, on va peut-être en parler, il dit, lui, il faut faire des déclarations mesurées, mais des actes forts. C'est précisément, en tout cas, c'est dire « attention », aux ambitions affichées en la matière, parce que ce que vous expliquez, ça alimente ce sentiment de frustration et de colère parfois des Français sur ce sujet-là.
Y compris, on parlait de ça, j'ai fait référence à Nicolas Sarkozy, il n'a pas gagné les élections au final, il avait vraiment mis l'accent sur cette question, mais il y a toujours un décalage.
Je crois que vous avez raison, le vrai problème, et c'est ça que les Français ne comprennent pas, mais aucun responsable politique n'a la réponse, c'est que vous avez aujourd'hui, mais c'était le cas déjà hier dans les proportions, 120, on va dire 140 000 demandeurs d'asile. Oui. Et sur ces 140 000, il n'y en a que 27%, enfin un peu moins d'un tiers, qui sont acceptés à rester. Et tous les autres, il est là le sujet, c'est que tous les Français le savent très bien, aucun des autres, très peu, sont raccompagnés à leurs frontières, parce que personne n'a trouvé le moyen. Comment fait-on pour les obliger à partir de notre territoire.
Et puis tout ça coûte très cher.
Et c'est typiquement sur ce sujet-là que s'est cristallisé la notion ou le sentiment d'impuissance publique. Hein, c'est-à-dire le discours entre les actes et l'incapacité des États pourtant puissants. On dit, voilà, on envoie des troupes au Mali.
On peut quand même fermer nos frontières.
Mais on ne peut pas fermer nos frontières ou raccompagner les gens chez eux. Et ce n'est pas franco-français. Les Brexiteurs, ceux qui avaient fait campagne pour le Brexit en Grande-Bretagne, étaient d'abord concentrés sur la question de l'immigration et leur slogan, c'était « Take back control », reprenons le contrôle. On est bien là-dessus et c'est pour ça que quelqu'un comme Patrick Buisson avait soufflé à Nicolas Sarkozy l'idée de mettre la thématique de la frontière, c'est central, dans sa campagne. Donc voilà, c'est bien là que se matérialise la souveraineté d'un pays et la capacité de contrôler quelque chose. D'où, par exemple, les passes d'armes qu'il y a eu entre la France et l'Italie à Vintimille, pour essayer de contenir les migrants qui remontaient du sud de l'Italie vers la France. Donc c'est cette question-là. Les Français ne comprennent pas comment on n'arrive pas, un État puissant comme la France, à faire appliquer sa loi sur son propre territoire.
Alors, il y a eu la loi asile-immigration. Là, on reparle d'un débat sans vote au Parlement à la fin du mois. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron prépare sa majorité. On va parler dans un instant. Le ministre de l'Intérieur va lancer un livre blanc sur le sujet avec des conclusions début 2020. Est-ce que là, précisément, on n'est pas dans ce que vous expliquiez à l'instant, c'est-à-dire faire remonter cette thématique, mais avec derrière le risque de décevoir?
Il y a deux choses. Je pense que tout ce processus, c'est pour rassurer la majorité. Il y a le débat le 30 septembre, mais dès la semaine prochaine, tous les parlementaires de la majorité vont être reçus pendant 4 heures au ministère de l'Intérieur pour qu'on leur explique de quoi il en retourne. Le lendemain, il y a 3 ministres, Christophe Castaner, Agnès Buzyn et Jean-Yves Le Drian, qui vont venir devant les parlementaires à l'Assemblée pour leur expliquer aussi. On est dans un gros travail de sensibilisation au sujet en mettant tous les chiffres sur la table parce que la majorité d'Emmanuel Macron est beaucoup plus à gauche que lui sur ces sujets. Donc Emmanuel Macron, sur les mesures elles-mêmes, il est très prudent. Il n'en a pas évoqué une seule hier, mais c'est justement pour ça. Et lui, il est manifestement, ce qu'on nous raconte, c'est qu'il a envie d'aborder les sujets différemment, c'est-à-dire de ne pas avoir de grandes annonces, mais de prendre chacun des sujets, d'ouvrir pour voir comment ça fonctionne, comment ça dysfonctionne, en essayant d'apporter des solutions concrètes. Par exemple, sur le retour, effectivement, il y a très peu de reconduite à la frontière. En revanche, il y a une aide pour le retour volontaire. On vous donne de l'argent si vous rentrez chez vous. Et on s'est rendu compte, il y a eu un rapport là-dessus, qui montrait que du coup, il y avait plus de volontaires qui étaient prêts à le faire si l'aide était revalorisée. Donc, est-ce qu'ils vont revaloriser cette aide pour inciter à l'aide au retour? Ça va être sur des petites choses comme ça, très concrètes, qu'ils vont essayer de travailler
comme
pour faire avancer. Voilà, c'est les petits
méthode.
Pas. Les petits pas et de
pas...
sortir. Et d'ailleurs, ils font le parallèle. Sur l'immigration comme sur l'écologie, on pâtit d'un débat complètement radicalisé par l'extrême droite sur l'immigration et par les Verts ou l'extrême gauche sur l'immigration. Et on veut essayer de réinventer la façon réinventer la façon de s'approprier ce sujet.
Ça passe par d'ailleurs des textes législatifs. Hein. Ça va beaucoup passer par décret, si j'ai bien compris. Il est obligé de faire quelque chose parce que il y a ce qui le guette et ce qui va animer le débat de façon explosive, c'est le débat sur l'identité nationale. C'est-à-dire qu'on va lui dire, vous faites comme Sarkozy, avec le débat sur l'identité nationale qui a duré des mois et des mois, qui n'a débouché sur absolument rien, qui a enflammé la France. Attention, vous voulez faire la même chose. Donc, si vous abordez ce sujet, il faut qu'il y ait des décisions, mais comme il est bloqué, enfin il n'est pas bloqué, mais il est embarrassé par une majorité qui est quand même très rétive, hein,
ah ouais,
faut le dire, très très rétive, eh bien il peut passer autrement que par la loi.
En tout cas, le sujet revient régulièrement dans le débat. Vous en avez dit un mot tout à l'heure. L'aide médicale d'État, réservée notamment aux sans-papiers, le gouvernement, pour lutter contre les abus, propose de réformer l'AME, un dossier ultra sensible. Il faut dire que le dispositif coûte un peu moins d'un milliard pour environ 300 000 bénéficiaires. Barbara Steck, Laura Rado.
Des logements de fortune sous le périphérique parisien. C'est ici que vivent des sans-papiers, dans une extrême précarité. Des hommes, des femmes, fragiles, qui trouvent refuge pour des soins dans ce centre médical. Ici, pour eux, les consultations sont gratuites. Ils bénéficient de l'AME, l'aide médicale d'État, comme plus de 300 000 immigrés clandestins chaque année en France.
Les personnes qui viennent à nous se présentent avec la nécessité d'avoir un soin de premier recours. On a des pathologies notamment digestives, respiratoires, ostéo-articulaires et aussi très très fréquemment et de plus en plus fréquemment donc des pathologies chroniques qui vont nécessiter d'organiser un soin pérenne et un suivi pérenne et bien sûr un traitement adéquat. Ça permet d'avoir un œil sur les gens qui auront des pathologies infectieuses qui ne pourront faire que s'aggraver avec le risque effectivement de contagion que ça peut provoquer sur l'entourage immédiat et l'entourage des populations.
En 2017, le candidat Macron s'était engagé à ne pas toucher à l'aide médicale d'État. Mais cette année, le budget de l'AME devrait avoisiner le milliard d'euros. Une somme multipliée par 2 en 10 ans. Une enquête a été demandée à l'Inspection générale des affaires sociales. La chasse à d'éventuels abus est ouverte.
J'entends effectivement qu'il puisse y avoir des abus d'utilisation de l'aide médicale d'État, par exemple, pour financer des prothèses mammaires. Bon, ben ça, on voit bien qu'on n'est pas dans une situation d'urgence quand c'est des cas comme ça.
C'est pas les migrants qui demandent ça.
Mais, si, de personnes qui sont en situation de migration en France. S'il y a des abus. Mais cette question, il faut être précis. eh bien, effectivement, nous devrons corriger ces abus-là. Pourquoi ? Justement pour préserver l'aide médicale d'État.
Et voilà le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, s'éloigner de la vérité. Car les prothèses mammaires ne sont remboursées que dans le cadre d'une chirurgie réparatrice après un cancer. De quoi alimenter une polémique et mettre à jour les divisions au sein de La République En Marche. Aurélien Taché fait partie de l'aile gauche de la majorité et tire la sonnette d'alarme. Réduire l'offre de soins couverte par l'AME, comme l'imaginent certains au gouvernement, n'est pas une solution.
Qu'est-ce qui tue, qu'est-ce qui ne tue pas, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui n'est pas urgent, pour un médecin, ça ne veut rien dire. Un corps au pied, ça peut tuer si ce n'est pas pris en charge suffisamment tôt et que ça s'infecte. Donc, si vous voulez, je pense vraiment qu'il faut faire attention avec ce débat-là et que l'aide médicale d'État rend beaucoup plus de services à la société qu'on ne veut bien le dire. S'il n'y avait plus d'aide médicale d'État demain, les gens seraient pris en charge trop tard, ça coûterait plus cher, il y aurait des risques de pandémie. Donc voilà, soyons très prudents et touchons à l'aide médicale d'État si on doit le faire avec la main qui tremble.
L'AME régulièrement prise pour cible à droite. Pendant la dernière campagne présidentielle, François Fillon et Marine Le Pen avaient tous deux proposé sa suppression. Républicains et Rassemblement National qui continuent aujourd'hui à plaider pour sa disparition.
Nous proposons, nous, de faire, non pas une AME, mais une aide médicale d'urgence, c'est-à-dire de restreindre le panier à des maladies infectieuses, des maladies contagieuses. Il est hors de question de laisser mourir en France, évidemment, des gens, quelle que soit par ailleurs leur situation. Mais je pense qu'on doit mettre fin à ce laxisme.
Moi, ça me pose un problème de justice sociale vis-à-vis de nos compatriotes, de savoir qu'en même temps, on est un tiers des Français qui n'arrivent plus à soigner, et en même temps qu'on donne 1 milliard d'euros à l'aide médicale d'État. Donc nous, on est favorable à ce qu'on supprime. Parce qu'on supprime l'aide médicale d'État, qu'on la remplace par un fonds d'urgence qui serait quand même considérablement réduit dans son enveloppe, pour prendre en charge, évidemment, s'il y a quelqu'un qui est en train de mourir sur le bord de la route, on est humain, on ne va pas le laisser mourir. Mais il s'agit, si vous voulez, d'arrêter ces pompes aspirantes de l'immigration que constitue en l'occurrence l'aide médicale d'État, qui fait qu'il y a des gens qui viennent chez nous pour se faire soigner.
Des abus régulièrement dénoncés alors que les associations estiment que l'AME est au contraire sous-utilisée. Médecins du Monde considèrent que plus de 80% des sans-papiers éligibles n'y ont pas recours.
Alors voilà un sujet qui crispe le débat politique depuis des années. Cette question, on entendait Jordan Bardella utiliser cette thèse, l'AME fait-elle venir plus de migrants ?
Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'en France, on a un dispositif qui est dû à notre philosophie des droits de l'homme, qui est un dispositif, c'est vrai, généreux. Il y a l'AME, c'est l'aide médicale d'État, c'est-à-dire c'est une aide qui est consacrée aux immigrés en situation irrégulière qui arrivent sur notre territoire et qui ont des soucis de santé. À côté de ça, vous avez d'autres aides. Vous avez l'ADA, notamment, qui est l'aide pour les demandeurs d'asile. Et puis, vous en avez d'autres. Après, vous avez le PUMA. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. En tout, l'enveloppe, elle est estimée, je dis bien, c'est une estimation, ça doit être de l'ordre de 2,5 milliards d'euros si on met tout bout à bout, parce que vous avez aussi le logement. Il faut tout prendre en compte. Il est sûr que dans tous les pays européens, on est un des plus généreux. L'AME, pour ne prendre qu'elle, c'est-à-dire l'aide médicale d'État, a doublé quasiment en l'espace de 10 ou 15 ans. Et ça fait dire à tout le monde que c'est, à tout le monde, à beaucoup, que c'est un appel d'air, si vous voulez,
une pompe aspirante
pour les immigrés qui viennent de façon irrégulière ou pas, d'ailleurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des raisons d'une immigration qui est peut-être mal maîtrisée, incontrôlée ou attirante, ou plutôt un pays attirant pour les immigrés, la France. Mais ce n'est pas l'unique raison. La raison, enfin moi je la connais bien, la raison principale, c'est une raison historique. Et vous mêlez les deux, et vous avez notre situation où vous regardez les pays d'origine des immigrés, vous apercevez que beaucoup d'entre eux sont des pays d'Afrique noire francophones. Beaucoup, énormément. Et donc, il y a des multiples explications. Mais c'est vrai que l'AME est au cœur de la... On va voir, de ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il veut, alors il y a plusieurs façons de réformer la chose, consacrer ça simplement à des soins d'urgence, et non pas à des soins de confort. Après, allons savoir ce qui est urgence et de confort. Ça va être compliqué, mais c'est une des
pistes. Et on voit que c'est compliqué, que le sujet, du coup, dérape, puisqu'on entend Stanislas Guérini qui explique que certains ont utilisé l'AME pour faire de la chirurgie esthétique et mettre des prothèses mammaires. Alors là, on se dit, oui, évidemment, c'est un dévoiement d'une mesure qui doit être une mesure d'urgence sanitaire, parce que le but, quand même, de tout ça, c'est quand même de garder un niveau sanitaire en France.
Oui, qu'il n'y ait pas de maladies contagieuses qui viennent...
Et vous me direz si ce que j'ai lu est juste, mais les principaux soins qui sont concernés par l'AME, c'est le suivi des femmes enceintes, le VIH et les soins liés à la tuberculose.
Et au cancer aussi, manifestement, 70% des dépenses, c'est pour le cancer. D'accord. Ça, c'est des chiffres du ministère de la Santé. Vous parliez de Stanislas Guérini, c'est ce que disent tous les ministres en ce moment. Ils ont eu manifestement des réunions de travail pour dire, regardez, par exemple, et notamment sont pointés du doigt les low cost. Par exemple, les avions low cost entre la Géorgie et la France. Maintenant, vous venez en France pour 50 euros. Et donc, au ministère de l'Intérieur, on nous dit, il y a beaucoup de Géorgiens qui viennent. Depuis cet été, ça a été un pic. Juste en famille, l'été, pour se faire soigner de choses quand même assez lourdes. Donc, il y a le fait de venir spécifiquement pour se faire soigner. Donc, comment on contrôle ça? Est-ce qu'il faut donner des visas, justement, à ces populations-là? Et puis, à l'intérieur du panier de soins, des soins qui sont remboursés par l'AME, il faut peut-être regarder s'il n'y a pas effectivement des détournements. Les prothèses mammaires, normalement, on ne fait pas du tout d'esthétique dans l'AME. Mais en revanche, il peut y avoir de la reconstruction liée à un cancer du sein, par exemple. Ouais. Surtout que ça se fait souvent juste après. Comment on fait la différence entre les vrais et les faux? Il y a un rapport qui a été commandé par Agnès Buzyn et c'est là-dessus qu'ils vont essayer de travailler.
Réformer l'AME.
Voir s'il y a des fraudes. Pas toucher à l'enveloppe, même si elle atteint le milliard, à l'enveloppe globale, parce que là, politiquement, ils ont trop peur que ça ne passera pas. Mais voilà, lutter contre les fraudes, en fait.
Alors, je suis désolée, je suis complètement en désaccord avec ce qu'il vient
d'être dit. C'est pas grave, c'est pour ça que vous êtes là.
Alors, il faut savoir que donc, depuis 1993, les étrangers en situation régulière sont inclus donc, dans cette aide médicale d'État. Mm-hmm. On parle de la santé des migrants depuis le premier rapport, c'est 1972. Il y a eu, depuis 1993, des tonnes de rapports. Des rapports de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, des rapports parlementaires, parce qu'il y a des parlementaires comme Klaus Goesgen et d'autres qui sont contre l'AME depuis longtemps. Mais à chaque fois, je suis désolée, il n'est pas question de tourisme médical ni de prothèse mammaire. Donc ça, c'est vraiment la fake news ou je ne sais pas d'où ça vient.
Ce que disait Cécile Cornudet, c'est qu'en tout cas, utilisé dans le débat public par les ministres.
Alors, utilisé dans le débat public. Par contre, oui, le tourisme médical, par exemple, il existe en Europe. Hein, vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui vont en Europe de l'Est pour les implants. Oui. Enfin bon,
Tunisie.
Mais là, l'AME, on parle bien d'une aide spécifique pour ceux qui sont depuis 3 mois avec certaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est est-ce que c'est vraiment une question d'immigration ou est-ce que c'est une question de santé publique? C'est là le débat. C'est-à-dire que est-ce qu'on considère que. Alors, c'est 1 milliard, ça on peut expliquer pourquoi, parce qu'il y a de plus en plus de personnes en situation irrégulière. Puisqu'il n'y a pas eu de régularisation depuis très longtemps. Est-ce que ce milliard sur qui est 0,47% du budget de santé, c'est beaucoup? Ben pour en fait la plupart des médecins, mais surtout les gens en santé publique.
Qu'est-ce qu'ils disent?
Ils disent que bien sûr qu'il faut soigner tout le monde, en particulier, alors il y a la question des maladies infectieuses, bien sûr. Hein. En France, on est très interrogé sur le sida, la tuberculose, l'hépatite, donc on considère qu'on ne peut pas laisser les gens en dehors du panier de santé. Mais même les gens ensuite, les associations qui travaillent sur la pauvreté, ATD Carbone, etc., disent pareil. Plus on attend que les gens viennent se soigner, plus ils vont arriver dans des situations d'urgence et ça va coûter plus cher. Donc le calcul du coût est finalement... Donc si on parle à des gens, soit qui travaillent sur la lutte contre la pauvreté ou sur la santé, ils disent ben, l'AME, ce n'est pas si cher que ça. Donc qui dit que c'est une question
de l'AME? Ce que disait Cécile Cornudet, c'est que pour le coup, il n'y a pas de volonté du gouvernement de baisser l'enveloppe pour les raisons que vous avez évoquées. C'est en gros, ça ne passerait pas.
Non,
lutter contre les abus.
Ils veulent, ils veulent baisser en dessous du milliard, justement. Mm. Ils veulent justement réduire le budget, parce que si justement vous acceptez moins de monde éligible à une AME réformée, ça baisse évidemment l'enveloppe. C'est ça, il faut, pour que ça ait un impact, il faut que ça va avoir un effet aussi financier. Il est là, le sujet. Parce que c'est quand même, il faut le répéter, quand même, c'est un sujet qui est au cœur des raisons de l'immigration en France. C'est très clair. C'est
et les Français, et les Français dans tout ça, est-ce que vous les avez interrogés sur le sujet de l'AME? Oui. C'est bien qu'on parle de ce sujet-là en particulier avec des arguments qui ne sont pas les mêmes, et c'est tant mieux, ça nous fait réfléchir. Mais du coup, au bout de course, les Français, ils le perçoivent comment?
Alors là, il n'y a pas de sondage qui vienne d'être réalisé sur la dernière période, mais comme on l'a rappelé, ça fait 10 ou 15 ans que ce sujet est dans le débat public. À l'époque, il y a un moment, je crois que l'aide médicale d'urgence, le terme a changé, on était sur 400 ou 450 millions. Et quand des médias avaient commandé des enquêtes à ce moment-là, il y avait une majorité de Français qui étaient favorables à ce qu'on restreigne les conditions d'accès ou qu'on encadre davantage. Mais tout ça était en droite ligne avec les chiffres qu'on a rappelés tout à l'heure sur le fait que 2/3 de la population française considère qu'il y a trop d'immigrés. Et ce dispositif étant adapté ou s'adressant d'abord à une population qui est en situation irrégulière, là aussi, ça renforce le sentiment d'impuissance publique en disant, mais on a même un État, alors on peut comprendre pour des raisons humanitaires, mais qui développe toute une infrastructure pour venir en aide à une population qui, normalement, n'a pas le droit d'être sur notre territoire. Donc, c'est même sur le principe, pas mal de gens sont choqués.
Juste pour revenir sur la majorité, parce que là, typiquement, c'est un sujet sur lequel le gouvernement, vous dites, il n'a pas fait d'annonce hier soir, mais là, c'est un sujet sur lequel ils veulent bouger, en tout cas lutter contre les abus, je ne sais pas comment est-ce qu'ils l'ont, ou la fraude, voilà comment ils l'ont présenté. Il y a une tribune déjà de 15 parlementaires de La République En Marche qui disent « attention à ne pas hystériser le débat ». Alors, en s'attenant à l'AME, ça va être difficile de ne pas hystériser le débat.
C'est pour ça qu'il n'en a pas parlé hier soir, parce qu'effectivement, l'AME et les prothèses mammaires, ça a mis le feu aux poudres. La majorité, globalement, ne veut pas avancer là-dessus. Vous savez, on disait beaucoup dans la campagne, Emmanuel Macron, il est libéral sur le plan économique, mais il est libéral sur le plan culturel. Et il y a beaucoup de gens qui sont venus vers lui pour ça, pour cet attelage-là qui n'existait pas dans l'offre politique. Il y a beaucoup de parlementaires qui sont comme ça. Donc ça va remuer à l'Assemblée. Et dans les rangs du gouvernement, ce n'est pas simple non plus. Manifestement, Agnès Buzyn, qui est en première ligne pour gérer ces fonds-là, elle freine des quatre fers. Elle aimerait bien qu'on ne touche pas à l'AME, manifestement. Et en plus, elle est en discussion avec beaucoup d'associations, ATD Carbone, de l'Abbé Pierre, sur d'autres choses, sur le revenu d'activité universel, vous savez, qui va remplacer toutes les... Donc, en gros, elle dit, si ça met le feu au monde associatif, eh ben, ça me compliquera ma réforme des allocations. Donc,
et le Premier ministre, il n'est pas chaud non plus.
Le Premier ministre, c'est vrai... Alors, il n'est pas identité heureuse comme l'était Alain Juppé, si vous voulez. Il est moins laxiste, entre guillemets, que l'était Alain Juppé, même s'il travaille avec lui. Mais il est extrêmement prudent. C'est vrai que c'est pas... en tout cas, il ne veut pas du tout que ce soit exploité politiquement avec des totems et qu'on mette... la France à feu et à sang là-dessus. Et puis l'autre risque, donc c'est un risque majoritaire, un risque interne, voilà, aux proches d'Emmanuel Macron, mais aussi, est-ce que le monde intellectuel et associatif va s'enflammer comme il s'était enflammé contre la loi asile-immigration? Et ça, c'est quelque chose aussi que redoute beaucoup Emmanuel Macron.
Ce qu'il a dit Emmanuel Macron à sa majorité, c'est votre adversaire désigné sur le terrain, c'est Marine sur Le Pen. Ce sujet, le Rassemblement national. Et donc, cette phrase signée Marine Le Pen, à partir du moment où le président rentre en campagne, je ne vais pas le laisser courir tout seul, c'est ce qu'elle a dit ce matin. La présidente du Rassemblement national s'imagine, elle aussi, sans doute, rejouer le duel de 2017. En attendant, en vue des municipales, elle semble bien décidée à ne pas laisser le thème de l'écologie à la majorité. Son nouveau mantra pour verdir son discours, ça s'appelle le localisme. Mathieu Lignot, Mélanie Nunez et Paul-Rémy Barjavel.
Marine Le Pen et le Rassemblement national se sont-ils mis au vert? Depuis plusieurs mois, le parti opère un virage écologique. Dimanche dernier, sa présidente fait sa rentrée à Fréjus, dans le sud de la France. Dans ce fief de l'extrême droite, elle détaille les idées et fixe déjà une ligne pour les futures élections municipales. Thèmes habituels comme la sécurité, l'identité et la ruralité, mais aussi une certaine forme d'écologie très locale.
La relocalisation d'activités, produire et consommer sur place est le premier principe de société écologique que nous voulons. Cette relocalisation d'activités procède, vous l'avez compris, de la logique du localisme. Cette révolution de la proximité qui est la pierre angulaire de notre projet. Cette révolution qui nous conduit à initier ce que Hervé Juvin appelle la civilisation écologique.
Hervé Juvin, c'est lui.
nouveau député RN au Parlement européen. Il a pris ses quartiers à Strasbourg il y a quelques semaines. Essayiste, ancien homme d'affaires, c'est en partie grâce à lui que le Rassemblement national a pris le virage écolo. Une protection de l'environnement qui se conjugue avec nationalisme.
Je signe à peu près tous les constats, par exemple, que vient de faire un Nicolas Hulot largement dans la presse. Où nous différons totalement, c'est sur les conséquences que nous tirons de ces constats. Les Verts disent « la planète brûle, il faut ouvrir les frontières ». Nous, on dit exactement l'inverse. Si la planète brûle et si la crise écologique est devant nous, ce sont les gens qui sont sur leur territoire et qui se préoccupent de transmettre leur territoire plus beau, plus riche et plus vivant qui vont pouvoir affronter cette crise écologique. Les problèmes, évidemment, sont globaux. Les solutions seront toujours locales. Et vous n'imposerez pas des solutions à la crise écologique contre la volonté des peuples.
Au fil des campagnes, ces idées ont infusé. Et Hervé Juvin a su convaincre. Aux dernières élections européennes, Marine Le Pen avait détaillé un programme pour cette écologie localiste, contre l'immigration et pour la défense de la culture européenne.
Culture et nature sont liées. Nous sommes, vous le savez, le parti de la transmission. Culture et nature font partie de cette transmission de patrimoine dont nous n'avons que l'usufruit et qu'il nous revient de léguer après l'avoir préservé, valorisé et enrichi.
Après sa première place aux européennes, le Rassemblement national compte bien tirer son épingle du jeu, aussi pour les prochaines élections municipales. Une écologie de proximité qui s'opposerait à une écologie, elle, mondialisée, dont l'une des héroïnes, Greta Thunberg, est régulièrement critiquée par le RN.
Ce n'est pas Greta Thunberg qui nous invite à changer de système. Greta Thunberg, on l'a bien vu, on a quasiment vu que c'était une escroquerie intellectuelle en réalité. Et puis au niveau local, on peut faire des choses qui complètent des politiques nationales, qui ne vont peut-être pas suffisamment loin, mais nous, quand on parle de choses très concrètes, par exemple, multiplier les jardins partagés, c'est ce qu'on fera dans les communes et dans les communes dans lesquelles nous aurons des candidats. Multiplier les jardins partagés, et ce sont des initiatives locales. C'est aussi ça, le localisme.
Une stratégie d'écologie concrète de petits projets pour une ambition municipale réfléchie. Le Rassemblement national serait en mesure de gagner dans plusieurs communes, comme à Calais, Hénin-Beaumont, Saint-Dizier, Beaucaire ou encore le Luc. Au total, 193 villes et villages. Là où le RN a dépassé 40% des votes aux élections européennes, la majorité sont des petites communes de moins de 3500 habitants.
Alors nous entendions à l'instant Sébastien Chenu parler des jardins partagés, cette question, Emmanuel Macron sur l'immigration, Marine Le Pen sur l'écologie, on n'y comprend plus rien, Jean Fourquet.
Alors ce qu'on constate, c'est que ce sont deux thématiques qui sont très présentes dans le débat, et les deux grands partis politiques qui aujourd'hui structurent la vie politique française s'en emparent. Et en partie, un front renversé. Mais quelque part, Emmanuel Macron, en parlant d'immigration, il y a toutes les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure, mais il sait aussi, la preuve, on fait une émission ce soir dessus, que ça va redéplacer le débat public sur cette question et réinstaller un peu plus le duel à distance entre le Rassemblement national et sa formation politique. Quand il dit à ses parlementaires, sur le terrain, votre principal et votre seul adversaire, c'est le RN, on est bien là-dedans. Et donc Marine Le Pen dit aussi derrière, eh bien s'il part en campagne, moi j'y vais. Et donc vous voyez que et la droite, et le Parti Socialiste, et les Insoumis sont complètement marginalisés sur cette question-là. Et sur la question de l'écologie, Marine Le Pen a, à mon avis, déjà dès les européennes, senti que des choses étaient en train de se passer. Parce que toute une partie de la population a acté l'idée que la société de consommation telle que nous l'avons connue était peut-être arrivée à ses limites. Et donc il y a deux alternatives aujourd'hui. Il y a une société de sobriété écologique un peu décroissante telle que les écologistes la veulent. C'est une option, on le voit sur les territoires. Et puis une autre option, c'est le localisme. Et quelque part, là, on revient un petit peu à des slogans que le Parti communiste avait utilisés à l'époque. C'était « nos emplettes, enfin vos emplettes sont nos emplois, produisons français ». Le Front National pourrait rajouter « avec des Français ». Et donc on voit qu'aujourd'hui, face à un Emmanuel Macron qui, au début de son quinquennat, était sur l'ouverture des flux, des frontières aux flux économiques, négocier de nouveaux accords de libre-échange, etc., etc., elle, Marine Le Pen, comme les écologistes, disent « maintenant, il faut limiter tout cela, mais avec des conclusions politiques qui sont radicalement opposées ».
Quand il parle des bourgeois, Emmanuel Macron, en disant à son parti « Attention, vous ne trompez pas ces sujets d'immigration, ce oui. sont des sujets auxquels sont confrontés l'électorat ouais. populaire ». Il parle aussi des bobos, de l'écologie. C'est ça aussi qui veut dire « Soyons pas un parti de bobos ».
Alors,
comment est-ce
dit,
que vous le lisez
là, dit bourgeois, oui. Mais on peut dire aussi… la société multiculturelle, comme dit Christophe Guillouis, à 5000 euros par mois, ce n'est pas la même chose qu'à 1000 euros. Oui. C'est-à-dire, est-ce qu'on a les familles issues de l'immigration sur son palier, ou est-ce que, même dans des grandes villes comme Paris, elles sont à 3 ou 4 stations de métro? Ça change quand même considérablement la chose. Et encore une fois, on le voit, aujourd'hui, la sociologie et la géographie électorale du macronisme est très typée dans ces quartiers qui sont relativement privilégiés. Et Emmanuel Macron, quelque part, il dit à ses troupes, il faut vous secouer.
Sortez de là. Ouais.
Il faut sortir du ghetto doré, il faut aller parler aux autres, parce que le Front National s'installe dans le parti.
Ça va être compliqué, non? Parce que sur les sujets qu'on a évoqués depuis le début de l'émission, à savoir les sujets d'immigration, d'asile, d'AME, ça fait longtemps qu'ils ont pris les devants.
Oui, mais je dirais que je vois mieux, si vous voulez, l'immigration dans la bouche d'Emmanuel Macron, s'il arrive à la mettre en musique, que l'écologie dans la bouche D'accord. de Madame Le Pen.
Elle n'est pas crédible?
Ça fait... bon, parce qu'en plus, autant l'immigration est un sujet qu'il faut effectivement régler, comme l'écologie, il faut y être évidemment sensible, mais les recettes qui sont celles du localisme, et on voit très bien pourquoi elle fait ça maintenant avec ce thème-là, puisque vous avez les municipales dans 6 mois, et que dans des villes, des petites villes, des villes moyennes, ça peut, si vous voulez, teinter aux oreilles que de parler de l'économie locale, tout ça. Sauf qu'on n'est pas du tout dans un monde qui peut se subvenir à lui-même en autarcie. Enfin, tout ça, c'est vraiment je dirais, des discours qui sont sympathiques, qui sont un côté un peu folklorique, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Donc, il y a évidemment chez Marine Le Pen la volonté de se recentrer.
Elle y arrive ou pas?
On va voir. Elle y arrive parce que déjà, le ton a énormément changé. Le côté rejet, on en veut le discours qu'elle a fait dimanche, qui était généralement des discours extrêmement sécuritaires, contre l'immigration, tout ça, c'est des thèmes qui n'ont pas été abordés. C'est des thèmes qui... elle a été beaucoup plus ronde sur l'écologie, notamment, qu'elle a privilégié. Et donc, ça montre qu'elle a la volonté de se recentrer. Alors, ce qui est très intéressant, si vous portez Macron avec l'immigration et Mme Le Pen sur l'écologie, eh bien, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire?
C'est partager l'espace.
C'est bouffer, pardon de l'expression, les Républicains. Là, vous y êtes.
Et ils sont en train d'y arriver?
Alors, en partie,
sur le plan électoral, le moment, oui.
Alors, sur le localisme, moi, je trouve quand même que c'est très cohérent avec l'idéologie de ce parti.
Bien sûr.
Et c'est pas uniquement l'autarcie. Ça rentre en résonance avec ce que dit Marine Le Pen depuis des années sur les dégâts de la mondialisation dans des territoires entiers. Sébastien Chenu, il est élu à Denain, dans le Nord. Et quand on dit du localisme, c'est refaire des usines en France, reproduire avec des circuits courts, que la grande distribution n'aille plus se fournir par containers entiers à l'autre bout de la planète, que la Chine ne soit plus l'atelier du monde. Tout ça, ça parle énormément dans ces territoires. Quand Donald Trump, à rebours des républicains américains, met la question du protectionnisme, eh bien, des études américaines ont montré que c'est dans les circonscriptions états-uniennes où la délocalisation en provenance de la Chine avait fait le plus de ravages que Trump a fait ses meilleurs scores. Donc c'est un sujet majeur. C'est-à-dire qu'on peut mêler la préoccupation environnementale avec une critique de la mondialisation économique en direction notamment des publics qui ont été les plus frappés par cela.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Quand Macron dit que La République En Marche peut devenir un parti de bourgeois, à qui, à quoi pense-t-il?
Il pense
ses électeurs.
Ouais, il veut détacher l'étiquette de président des riches, parce que pour lui c'est complètement mortifère de façon électorale. Il l'a vu l'année dernière, il a plus d'opposition politique, mais il peut avoir une opposition de la France d'en bas, les gilets jaunes ou d'autres couleurs, qui émergent d'un coup contre lui. Donc toute la préoccupation de cet acte 2, c'est de casser cette étiquette, se déconstruire ce discours Macron, parti des élites. Et c'est pour ça qu'il fait l'immigration. C'est pour ça que dans la réforme des retraites, il est prêt à s'attaquer aux avantages, y compris de son électorat, libérales. Les professions libérales, les avocats, tout ça, c'est ses électeurs. Qu'il annonce dans ce budget une baisse de 5 milliards de l'impôt sur le revenu. Il essaye de ne plus être le président des riches, mais le président de tous. Et alors, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas.
En fait, il veut réinventer le gaullisme tel qu'il existait, c'est-à-dire avoir les responsables, les cadres, les décideurs, mais aussi l'électorat populaire qui a complètement perdu, entre parenthèses, et c'est ça le drame de la droite de ces dernières années, c'est que la droite, si vous prenez les résultats électoraux, a complètement perdu
sa base
populaire.
Pourquoi l'immigration est-elle devenue un sujet urgent pour Macron ? Vous nous avez dit tout à l'heure, il n'y a pas de données, en tout cas chiffrées, qui nécessiteraient
une prise en compte. On en a déjà un petit peu parlé. On a vu qu'aux élections européennes, clairement, déjà, il a vu que son électorat avait quand même évolué. Il y a eu quand même beaucoup de personnes qui avaient voté pour les Républicains, enfin pour François Fillon, qui ont voté pour lui. Donc, je dirais, il suit son électorat, là. Il suit l'évolution de son électorat. Et on parlait des bourgeois. C'est vrai que les bobos, on considère que les bobos vivent dans des villes, ils sont plus pour l'immigration, etc. Donc, s'il veut élargir son socle électoral, il essaie de se convertir. Alors, après, est-ce que c'est crédible ? Est-ce que ça va peut changer à mi-mandat ? C'est une autre chose.
Une deuxième raison qu'on n'a pas beaucoup évoquée, c'est celle de l'Europe. Il entend être le patron à venir de l'Europe. Non pas institutionnellement, mais d'être la force d'entraînement de l'Europe. Et il sait très bien que l'Europe, elle n'est pas très populaire aux yeux de beaucoup, et qu'il ne peut pas avoir un discours sur l'Europe si, justement, il prévient que ce n'est pas parce qu'on est européen qu'on doit être ouvert aux quatre vents. Et alors, ce qui est très intéressant...
Ça, il n'a pas changé là-dessus.
Non, mais quand même, il l'a accentué, sauf qu'il le dit sur l'immigration. Jusqu'à présent, il était très européen, mais il parlait très peu d'immigration. Et il a dit cet été... dans une interview, je ne sais plus dans quel journal, les solutions ne sont pas sur l'immigration uniquement européenne, justement. Mmh. Il a pris soin de dire, et c'est là où on fait référence à l'aide médicale d'État, à toutes ces réformes qu'il veut engager, voire des quotas, et ça, ce n'est pas du tout du ressort de l'Europe.
Et lors de son discours aux ambassadeurs, le 27 août dernier, il a dit « La France est en train de devenir le premier pays européen de demande d'asile ».
Oui.
C'est vrai ?
C'est sans doute vrai cette année, mais...
Cette année, oui.
Le candidat Macron n'avait-il pas dit que l'immigration est une chance pour le pays ? C'est Gérard, dans la Haute-Vienne, qui se demande ça. Est-ce qu'il n'avait pas dit que c'était une chance, l'immigration, lorsqu'il avait évoqué l'initiative d'Angela Merkel ?
Il n'était pas candidat, là.
La chance pour la France, c'est une thématique qui est ressortie régulièrement dans la bouche de ceux qui défendent une politique assez humaniste. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas à souvenir qu'il l'ait dit, lui, personnellement, mais... En gros, l'intonation, la tonalité était celle-ci. Et donc, on voit bien, encore une fois, qu'à l'épreuve des faits et de l'exercice du pouvoir, il a, alors peut-être pour des raisons électorales, quand même pas mal modifié son angle de tir.
Le président commence-t-il à jalonner l'élection présidentielle de 2022 en prévision d'un nouveau duel avec Marine Le Pen ?
C'est évident.
Ça y ressemble quand même. Hein.
Alors, c'est très clair.
Il y a ça et le souvenir, encore une fois, des années Jospin, où... avec des bons résultats économiques, on dit ça y est, la partie est remportée, et on se fait rattraper par les questions régaliennes, et je pense qu'il anticipe ça, et qu'il veut planter des jalons pour ne pas se faire surprendre sur ce terrain-là.
Et vous avez raison d'en parler, il y a à la fois d'un côté les questions d'immigration, et de l'autre côté, les sujets régaliens. Est-ce que Emmanuel Macron n'estime pas que l'autorité de l'État a été un peu abîmée pendant la crise des Gilets jaunes ? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté d'être plus à l'offensive sur les sujets régaliens ? Sécurité, lutte contre les cambriolages, etc. Des sujets qu'on n'avait plus entendus, encore une fois, depuis le début du quinquennat.
Pendant la crise des Gilets jaunes, il a voulu incarner le parti de l'ordre, et en plus, la chance qu'il a eue, c'est que Laurent Wauquiez a enfiler un gilet jaune, donc n'a pas pu porter cette image-là. Et électoralement, c'est ça qui lui a permis de tenir aux élections européennes. Il a réussi à avoir un électorat de droite.
C'est d'ailleurs toute la dernière partie de son discours de clôture du grand débat des gilets jaunes.
Allez, un référendum s'impose sur les questions d'immigration, mais Macron aura-t-il le courage d'en organiser un ? J'en doute.
C'est ce qu'a demandé Marine Le Pen ce matin.
Il faut une question où on puisse répondre par oui ou par non.
Donc, si, il y en a une, c'est évident, mais voulez-vous des quotas ou pas ? Des quotas ?
Des quotas ?
Ouais, des quotas d'immigration, ça se pratique dans beaucoup de pays, notamment au Canada.
Il l'avait évoqué.
Et il l'a évoqué. Sauf que les quotas, face à l'immigration notamment irrégulière, je ne vois pas en quoi ça a une efficacité.
Les quotas, c'est un sujet qui pourrait revenir dans le débat à la fin du mois de septembre.
Ceux qui l'ont lancé. Hein. Le ministre Castaner a relancé ce sujet-là avant l'été.
Comment Emmanuel Macron pourra-t-il satisfaire les entrepreneurs, son électorat, en manque de main-d'œuvre et rejeter l'immigration économique ?
Bon, une partie, de, notamment Nicole Pénicaud, une partie de ses proches plaident pour ça. Il y a trop de secteurs en tension. Nous, sur le terrain, on nous demande des centres pour accueillir des travailleurs immigrés.
Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui est rediffusée ce soir à 22h40. Tout de suite, c'était à vous. Belle soirée sur France 5.